Chapitre 29. Marx. Un spectre hante l'Europe.
Hilde se leva du lit et vint près de la fenêtre qui donnait sur la baie. Elle avait commencé sa journée du samedi en lisant l'histoire des 15 ans de Sophie. La veille, elle avait fêté son propre anniversaire. Si son père s'était imaginé qu'elle arriverait à lire jusqu'à l'anniversaire de Sophie, il avait mis la barre trop haut. Elle n'avait fait que dévorer le livre toute la journée d'hier. Elle avait encore eu droit une dernière fois à des vœux de joyeux anniversaire, quand Alberto et Sophie avaient chanté « Happy Birthday to you ». Hilde n'avait pas particulièrement apprécié. Ainsi, Sophie avait décidé d'inviter tout le monde à une garden party philosophique, le jour même où le père de Hilde devait revenir du Liban. Hilde était convaincue qu'il allait se passer quelque chose de totalement imprévisible, aussi bien pour elle-même que pour son père. Elle était en tout cas sûre d'une chose. Avant son retour, son père allait recevoir une douche froide. C'était bien le moins qu'elle puisse faire pour Sophie et Alberto. N'avait-il pas demandé son aide? Sa mère s'affairait encore dans le hangar à bateau. Hilde était descendue en catimini au rez-de-chaussée pour téléphoner. Elle trouva le numéro de téléphone de Anne et Ole à Copenhague et le composa.
« Allô? Qui est à l'appareil ?»«
Bonjour, c'est moi, Hilde. »«
Comme c'est gentil de penser à nous. Tout va bien chez vous ?»«
Oh oui, et en plus c'est les vacances. Encore une semaine et papa rentre du Liban. »«
Ça doit te faire drôlement plaisir, Hilde. » »«
Oui. » Ça me fait plaisir, mais en fait, c'est pour ça que j'appelle.
Ah ?
Je crois qu'il atterrit vers 5h samedi 23. Est-ce que vous serez à Copenhague à ce moment-là ?
A priori, oui. Pourquoi ça ?
Je me demandais si vous ne pourriez pas me rendre un petit service.
Mais bien sûr, voyons.
C'est-à-dire que c'est un peu spécial. Je ne sais pas si c'est possible.
Je suis curieuse de savoir de quoi il s'agit.
Alors, Hilde se mit à expliquer toute l'histoire avec le classeur, Alberto et Sophie, etc. Elle dut recommencer plusieurs fois, parce que tantôt elle, tantôt sa tante, éclataient de rire à l'autre bout du fil. Mais quand elle raccrocha, son plan était bien arrêté. Il ne lui restait plus qu'à prendre quelques dispositions concernant la maison, mais elle avait quelques jours devant elle. Le reste de l'après-midi et la soirée, Hilde les passa en compagnie de sa mère et elles prirent finalement la voiture pour aller au cinéma à Kristiansand. Ça changeait un peu de la veille où elle n'avait rien fait de spécial pour l'anniversaire. En passant près de l'aéroport de Kievik, les dernières pièces du puzzle auxquelles elle ne cessait de penser se mirent à leur place. Elle attendit d'aller au lit pour poursuivre sa lecture dans le grand classeur.
Quand Sophie regagna sa cabane, il était presque 8h. Sa mère était en train de désherber quelques plates-bandes à l'entrée quand elle apparut.
« Tu sors d'où comme ça ?»«
De la haie. »«
De la haie. »«
Tu ne sais pas qu'il y a un autre chemin de l'autre côté ?»«
Mais où es-tu allée, Sophie ? Ce n'est pas la première fois que tu disparais tout l'après-midi sans prévenir. »«
Excuse-moi, il faisait si beau dehors, j'ai fait une longue balade. »
Sa mère se redressa et lui jetant un regard inquisiteur,
« Je parie que tu es allé retrouver ton philosophe. »
« En effet, je t'ai déjà dit qu'il aimait se balader. »
« Il viendra à ta fête ?»«
Oh oui, ça lui fait très plaisir. »
« Eh bien moi aussi, je compte les jours, Sophie. »
La voix de sa mère manquait de naturel. Aussi, Sophie préféra-t-elle ajouter
« Je suis bien contente d'avoir aussi invité les parents de Yoron. » Ça aurait été un peu pénible, sinon.
De toute façon, j'aurai deux mots à lui dire à ton Alberto, d'adulte à adulte.
Je vous prête ma chambre, si tu veux. Je suis sûr qu'il va te plaire.
Mais enfin! À propos, tu as reçu une lettre.
Ah bon?
Le cachet de la poste indique « Contingent des Nations Unies ».
Alors ça vient du frère d'Alberto.
Écoute, maintenant, ça suffit, Sophie.
Sophie fut prise de panique, mais en l'espace d'une seconde, elle avait trouvé une réponse plausible. C'était comme si une âme secourable lui venait en aide.
J'ai raconté à Alberto que je fais la collection de timbres rares. Ça peut toujours servir d'avoir un frère. »
Cette réponse réussit à convaincre sa mère.
« Tu trouveras ton dîner dans le réfrigérateur, » déclara cette dernière sur le ton de la réconciliation.
« Où as-tu mis la lettre ?»«
Sur le réfrigérateur. »
Sophie rentra précipitamment. L'enveloppe indiquait le 15-06-90. Elle ouvrit l'enveloppe et sortit un petit bout de papier. Que signifie alors l'éternelle création? Emporter l'être créé et le réduire à rien?
Non, Sophie ne trouvait rien à répondre à cette question. Avant de manger, elle glissa le papier avec tout le bric-à-brac qu'elle avait trouvé ces dernières semaines. Elle finirait bien par trouver pourquoi on lui posait une telle question.
Le lendemain, Jörn vint lui rendre visite dans la matinée. Après avoir joué au badminton, elles continuèrent à préparer la garden party. Il fallait qu'elles aient des solutions de rechange au cas où les gens commenceraient à s'ennuyer. Quand sa mère rentra du travail, elles continuèrent leur conversation à trois. Il y avait une phrase que sa mère n'arrêtait pas de répéter.
« Non, on ne va pas économiser là-dessus !»
Ce n'était pas ironique de sa part. Cette garden party philosophique lui semblait être le seul moyen de ramener Sophie sur Terre, après toutes ces semaines tumultueuses passées à dévorer des cours de philosophie. Elles tombèrent d'accord sur tout, du traditionnel gâteau d'anniversaire au lampion dans les arbres, sans oublier le concours de devinettes philosophiques avec un livre d'introduction à la philosophie comme premier lot. À condition de trouver un livre de ce genre. Sophie avait des doutes là-dessus. Le jeudi 21 juin, deux jours avant la Saint-Jean, Alberto la rappela.
Allô, Sophie? C'est Alberto.
Comment ça va?
Très bien, merci. Je crois que j'ai trouvé un moyen pour nous en sortir.
Nous sortir de quoi?
Tu sais bien, voyons, de cette captivité mentale où nous sommes déjà restés trop longtemps.
Ah!
Mais je ne peux rien te dire de mon plan avant de le mettre en œuvre.
Est-ce que ce n'est pas un peu tard? Il faut quand même que je sois au courant.
Non, c'est toi qui es naïve maintenant. Tu sais bien que tout ce que nous disons est sur écoute. La seule chose raisonnable que nous puissions faire est de nous taire.
C'est vraiment aussi terrible que ça?
Naturellement, mon enfant. Le plus important se passera quand nous ne serons pas en train de parler.
Oh!
Nous vivons notre vie dans une réalité illusoire qui existe à travers les mots d'un long roman. Chaque lettre est tapée sur une machine de trois fois rien par le major. Aussi, rien de ce qui est imprimé ne peut échapper à son attention.
Je comprends bien. Mais comment se cacher à sa vue dans de telles conditions?
Chut!
Quoi?
Il se passe des choses aussi entre les lignes. C'est là que j'essaie de glisser tout ce que je peux de phrases à double sens et autres ruses de ce genre.
Ah, d'accord.
Mais nous devons mettre à profit la journée d'aujourd'hui et de demain, car samedi, c'est le jour J. Tu peux venir tout de suite?
J'arrive.
Sophie donna à manger aux oiseaux et aux poissons, sortit une grande feuille de salade pour Govinda et ouvrit une boîte pour Sherkan. Elle plaça le bol de nourriture sur les marches en partant. Elle se faufila à travers la haie et s'engagea sur le sentier de l'autre côté. Après avoir marché quelques instants, elle aperçut un grand bureau au beau milieu de la bruyère. Un vieil homme était assis derrière ce bureau. Il donnait l'impression de calculer quelque chose. Sophie alla vers lui et lui demanda son nom. C'est à peine s'il daigna lever les yeux.
« Scrooge » maugréa-t-il en se replongeant dans ses papiers.
« Moi, c'est Sophie. Tu es un homme d'affaires ? »
Il se contenta d'acquiescer.
« Et je suis riche comme Crésus. Jamais un centime de gaspillé. C'est pourquoi je dois me concentrer pour faire les comptes. »
« Eh bien, si tu en as le courage. »
Sophie lui adressa un petit signe de la main et continua son chemin. Mais juste quelques mètres plus loin, elle vit une petite fille qui était toute seule sous un des grands arbres. Elle était vêtue de haillons et avait le teint pâle et maladif. Au moment où Sophie passa près d'elle, elle sortit d'un petit sac une boîte d'allumettes.
« Vous ne voulez pas m'acheter des allumettes ? »
demanda-t-elle. Sophie mit sa main dans la poche pour voir si elle avait de l'argent sur elle.
« Ah si, elle avait une pièce d'une couronne. »« Ça coûte combien ? » ?»«
Une couronne.
Sophie tendit la pièce et se retrouva avec la boîte d'allumettes à la main.
« Tu es la première à m'acheter quelque chose depuis plus de 100 ans. Parfois je meurs de faim ou je suis transie de froid. »
Sophie songea que ce n'était pas étonnant qu'elle n'arrive pas à vendre ses boîtes d'allumettes au fond de la forêt. Puis, elle se souvint du riche homme d'affaires d'à côté. Ce n'était pas normal que la petite fille meure de faim quand quelqu'un avait autant d'argent que ça.
« Viens par ici, »
dit Sophie en prenant la petite fille par la main et en l'entraînant jusqu'au riche homme d'affaires.
« Tu dois faire en sorte que sa vie soit moins dure, »
lança-t-elle. L'homme leva les yeux de ses papiers et dit en plissant le front,
« Ça coûte de l'argent et je t'ai déjà dit qu'il n'était pas question que je gaspille un seul centime. »
« Mais c'est injuste que tu sois si riche quand cette petite fille est si pauvre, »
insista Sophie.
« Quelle idiotie ! La justice n'existe qu'entre les gens du même monde. »
« Qu'est-ce que tu entends par là ?»«
Je me suis fait tout seul, et tout travail mérite salaire, non ? C'est ce qu'on appelle le progrès. »
« Ça, c'est le comble !»« Si tu ne m'aides pas, je vais finir par mourir, »
intervint la petite fille pauvre. L'homme d'affaires leva les yeux à nouveau et donnant un grand coup à la table avec sa plume,
« Tu n'es inscrite nulle part dans mes livres de comptes. Allez, oust, allez, hospice !»«
Si tu ne m'aides pas, j'allume un incendie de forêt, »
poursuivit la petite fille pauvre. Alors l'homme se leva derrière son bureau, mais la petite fille avait déjà craqué une allumette. Elle la jeta dans l'herbe sèche qui s'embrasa aussitôt. L'homme riche fit de grands moulinets avec les bras en criant
« Au secours ! Les rouges sont de retour !»
La petite fille lui lança un regard moqueur.
« Tu ne savais pas que j'étais communiste, hein ?»
L'instant d'après, la petite fille, l'homme d'affaires et le bureau avaient disparu. Sophie se retrouva seule à regarder le feu gagner du terrain. Elle essaya d'étouffer les flammes en marchant dessus et parvint au bout d'un moment à éteindre le feu.
Dieu soit loué.
Sophie jeta un coup d'œil aux touffes d'herbe brûlées. Elle tenait encore à la main une boîte d'allumettes. Ce n'était quand même pas elle qui avait mis le feu.